L'excellent band des Foo Fighters. Fait toujours du bien d'écouter ça.
Ah, mais ça.
Ouais. J'imagine que vous avez levé le son dans votre voiture. Puis j'imagine que le son baissera pas, puisqu'on a le plaisir de jaser de chasse et de pêche avec le président du groupe Aventure Chasse-Pêche, Martin Bourget, qui est à l'autre bout. Salut Martin, comment ça va, mon ami?
Salut gang, ça va bien? Vous autres, ça va bien?
Ben oui, yes. Ça va bien. Parle-nous un peu d'Aventure Chasse-Pêche là, pour les gens qui te connaissent pas encore sur l'heure du midi. Là, parce que d'habitude, tu étais mon collaborateur du soir. Puis là, Pascal CV a dit, ben moi, je l'aime, Martin. J'aimerais ça qu'on l'aille le jour. Pour les auditeurs qui te connaissent pas, où est-ce qu'on peut vous voir d'habitude?
Essentiellement à la télévision. C'est tous les jeudis soirs, 19h, sur les ondes de Télémag, mais aussi sur Carbon TV, aussi sur Sportsman Channel, puis aussi sur Zone 300. On produit, nous autres, 26 émissions de chasse et de pêche, mais aussi beaucoup d'initiatives fauniques. T'sais, on est beaucoup dans le coupe un arbre, plante-en un nouveau. Là.
Ouais.
On fait aussi 4 magazines par année. Donc, aux 3 mois, on est très présent sur les réseaux sociaux. On est en live presque toutes les semaines, surtout dans les chaudes saisons. On n'est pas chaude au niveau de la température, mais au niveau de la chasse et de la pêche, évidemment. On est un petit peu partout, puis on a le bonheur d'une fois de traîner dans vos studios, gang, aussi, sur l'heure du midi de même. Là.
Ben oui, Pascal CV, t'es-tu chasseuse, pêcheuse, toi?
Pêcheuse, mais pas haheuse, je pourrais pas, je suis désolée pour tous les
sports. Mais t'es pêcheuse, qu'est-ce que t'aimes pêcher?
Les poissons.
Est-ce que... oui!
Bravo!
Mais le saumon, parce que c'est un poisson que j'apprécie particulièrement, mais le thon aussi en voyage, là, ça, je trouve ça bien.
Ça, c'est un workout.
Hey, puis, oui, c'est ça j'allais
c'est
dire.
C'est un workout, ça,
là.
Ça
t'en échappe, là, quand t'es pas expert. Mais la dernière fois qu'on a eu une chronique avec notre ami, là, au bout du fil, là, il a fallu que je réponde sur ce qu'on cueille en forêt, parce que Martin, tu nous as parlé genre de choses à cueillir dans les forêts de Québec.
Oui.
Oui.
Là, écoute, je prends des notes pendant la chronique pour être sûr d'être capable de répondre aux questions.
Ben oui. T'es-tu plus type pourvoirie, CEPAC ou ZEC?
Moi, ça?
Ouais.
ZEC.
OK. Moi, c'est CEPAC. Toi, Martin?
Je te dirais pourvoirie beaucoup. Okay. J'aime ça.
CEPAC, je pense.
Mais CEPAC, tout est arrangé. Là.
Ouais, exact. Ouais, définis-nous. On peut être une petite princesse des fois.
Ben oui.
On peut se le permettre. Définis-nous ce que c'est là, les différences entre pourvoirie, CEPAC ou ZEC, Martin.
Mais tu sais, c'est 3 des territoires dans lesquels tu peux chasser, pêcher, regarder des oiseaux, cueillir des petits fruits ou te promener en forêt. Hein? Puis tu as aussi le territoire libre qui s'ajoute à ça. Territoire libre qui est moins facile d'approche, on va le dire comme ça. Tu sais, c'est gratuit, on peut y aller, mais. J'ai envoyé un lien d'un un vieux reportage qui était passé à Radio-Canada qui s'appelle « La guerre des bois », qui démontre à quel point, là, sur certains territoires, là, ça peut lever le ton là, sur le partage de territoire. Fait que souvent, les gens vont s'en aller du côté des territoires organisés. Les 3 territoires organisés qu'on a au Québec, CEPAC, ZEC et les pourvoiries. On va y aller dans l'ordre, on va les placer par type de clientèle. On va dire ça comme ça. Si toi, tu es quelqu'un qui achète tes types de consommateurs sécuritaires, on va le dire. Tu t'en vas tout le temps en même place, tu prends ton café chez Tim le matin, tu vas au McDo parce que tu sais qu'est-ce que tu vas avoir. Tu as besoin de savoir comment ça va se passer et que ce soit pas mal homogène d'une place à l'autre. Tu es un client de CEPAC.
Okay.
Définitivement. La CEPAC a de très grands territoires au travers de la province. Ils vont offrir autant villégiature, camping, observation des oiseaux, de la faune, que la chasse, la pêche. Il y a des territoires organisés pour les trappeurs aussi sur les différentes CEPAC. Ça, c'est un tout autre dossier, mais ça existe. Mais tu peux être assuré que, par exemple, si on se prend un forfait à la pêche, eh bien, tu as des forfaits qui se ressemblent beaucoup, soit en plan américain ou en plan européen, avec le moteur fourni, essence, bateau, etc. Même chose pour la chasse. Si tu sais que tu vas avoir ta chambre froide, ton skidder pour sortir l'animal, un treuil pour sortir l'animal, les services se répètent. C'est homogène d'une réserve faunique à l'autre à la grandeur du Québec. Puis ça, je te dirais que on a beaucoup de clientèle là-dedans parce que ça les sécurise, surtout quand ils commencent en forêt, de savoir qu'ils savent à quoi s'attendre quand ils mettent les pieds à CEPAC à peu près n'importe où. Et ça, c'est ce style de clientèle-là. Je te dirais que c'est un produit qui est très, très populaire. C'est un genre de territoire qui est très, très populaire.
Ouais, puis tu peux amener tes enfants, tu peux amener ta conjointe, oui. Puis tout est là, là.
Ben oui, tu sais, ils ont Pêche en herbe, le programme Pêche en herbe, dans lequel ils peuvent vraiment comme faire le petit cours de biologie aux enfants, leur donner un permis de pêche qui est bon jusqu'à l'âge de 18 ans. Ils repartent avec une canne à pêche qui est donnée par Canadian Tire. Je veux dire, tu sais, il a aussi sur le réseau ZEC quelques pourvoiries longs, mais la majorité des CEPAC longs, puis ils ont souvent des lacs ensemencés qui s'y prêtent super bien. Fait que t'as vraiment différents niveaux de pêche et de chasse à la CEPAC, je te dirais. Malgré que les dernières années, ils sont très, très orientés plein air, au bon plaisir de plusieurs, moins pour les chasseurs et pêcheurs. Mais c'est la façon d'aller sur un territoire organisé sans te casser la tête, tu sais à quoi t'attendre. Réseau complètement différent de ça, le réseau ZEC. J'en ai entendu deux en studio qui ont répondu ZEC. Là, tu vis une aventure qui est totalement différente, beaucoup plus autonome. T'sais, en CEPAC, tu vas te présenter sur la réserve faunique où est-ce que tu vas aller. Dans ton secteur, tu vas avoir un gardien de territoire qui va t'aider. Tu as des guides souvent. À ZEC, tu passes au guichet à l'entrée pour payer ton droit d'accès. Tu as un territoire, dépendamment des ZEC, elles ne sont pas toutes pareilles. Tu as des territoires qui sont attribués de différentes façons. Et tu vas être en formule beaucoup plus autonome. On va souvent voir en ZEC, proche d'ici, la Batican-Nelson, la Blanche en haut, des territoires où est-ce que les gars vont aller porter leur roulotte. Littéralement. Et puis, ils vont en faire leur camp de base. Ils vont aller pêcher, chasser, la partie des gars, des filles. Aujourd'hui, je m'excuse, hein, parce qu'on a un groupe de 25 000 filles dans la place quand même, chasseuses, pêcheuses. Je vais pas me faire lancer des tomates. Fait que beaucoup plus autonome, tout aussi bien géré au niveau du territoire, c'est-à-dire qu'il y a une uniformité parce qu'il y a ZEC Québec qui chapeaute l'ensemble des ZEC. Hein. ZEC, ça veut dire zone d'exploitation contrôlée. C'est ce que ça veut dire pour les gens qui ne savent pas. Donc, c'est un territoire géré. Ce sont des terres de la couronne, comme les terres de la CEPAC, mais offert à un organisme, dans ce cas-ci, c'est ZEC Québec qui les gère.
Okay. Quand tu dis qu'il y a des gars et des filles qui vont porter leur roulotte là, c'est oui. Il y a des frais, j'imagine?
Oh oui, littéralement. Tu peux vraiment réserver un espace dans une ZEC. Je me souviens de mon oncle Mario. Écoute, je sais pas combien d'années, à tous les printemps, il allait porter sa roulotte, il payait son frais pour l'année. La roulotte restait sur le bord du lac, le petit Vatican, sur la ZEC Vatican-Nelson. Puis il allait avec ses chiens, il allait faire la perdrix, il allait faire de la pêche sur le lac, de l'entraînement avec les chiens. Puis tu sais, je veux dire, les terrains de camping se louent. Il y a des gens qui ont des chalets aussi. Il y a des attributions de territoire sous bail locatif dans les ZEC où est-ce que tu peux carrément te bâtir un chalet. C'est plus rare aujourd'hui parce que c'est très contingenté. Là, il n'y a plus beaucoup de place. Mais ça se fait un peu comme sur les terres de la couronne, dans les terres de l'État, dans le libre, on va dire comme ça. Tu peux carrément louer une parcelle de terrain et mettre une habitation qu'on va appeler mobile, hein, qui peut se démancher ou se défaire. Puis tu payes un bail locatif, soit annuel ou soit un sous-contrat de 10 ans. Un peu comme les pourvoiries font pour louer les espaces sur lesquels ils sont.
Mais là, t'es carrément off the grid. Il n'y a rien qui rentre. Là.
Ben, ça dépend. Il y a des endroits qui sont surprenants. Il y a des endroits vraiment très limitrophes avec la ville de Québec où est-ce que t'as, en CEPAC, en ZEC ou en pourvoirie, zéro cellulaire. Puis par là, tu te ramasses un peu plus au nord, c'est comme, mais voyons, j'ai 5G dans le cache. Dans le milieu du lac, là, ma blonde m'appelle, ma mère m'appelle, ça sonne, je dis, mais, ouais, t'es où? Loin. Je sais même pas pourquoi ça rentre. Tu sais, la première fois que j'ai parlé à Kate, qui est ma co-animatrice présentement, j'étais assis dans une cache sur l'île d'Anticosti, à un endroit où est-ce que ça devait pas rentrer pantoute. Elle m'a appelé en FaceTime parce qu'elle venait de récolter un orignal avec les larmes aux yeux. J'étais comme, bonjour, on se connaît. Puis finalement, on s'est connus. Mais c'est ça, c'est un secteur où est-ce que je ne pensais même pas avoir de connexion cellulaire. Puis le FaceTime est rentré à full pin. J'étais le premier sur. Tes deux premiers réseaux, CEPAC, ZEC, c'est des gros réseaux organisés, puis ils sont unifiés. Ils sont gérés par une corpo ou une association qui les relie tout ensemble. Le troisième réseau, moi, c'est, je te dirais, probablement mon préféré parce que ça me permet de vivre des aventures totalement différentes. C'est le réseau des pourvoiries. Parce que le réseau des pourvoiries, chacune des pourvoiries appartient à des individus différents. Donc, leur entreprise reflète un peu ce qu'ils sont, leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils aiment. Fait que tu vas te pointer tantôt sur une pourvoirie où est-ce que c'est que de la pêche. Un autre où est-ce que c'est chasse et pêche. Tu as des gestionnaires fauniques, tu as des gestionnaires administratifs. Tu vas avoir des pourvoiries dans lesquelles, moi j'ai vu des pourvoiries là, avec des pancartes d'identification sur chacune des arbres, des pancartes d'identification des oiseaux, des circuits de cueillette de champignons puis de petits fruits. Ils vont t'inciter dans certains cas à aller cueillir certaines choses dans le bois pour apprêter ton poisson avec, te faire vivre une expérience. Alors que d'autres, leur but, ça va être de te faire pogner ton quota. T'as énormément... Tu peux varier, tu peux te faire un horaire en pourvoirie là, annuel pour vivre des expériences totalement différentes parce que ça appartient à des individus. Ils sont regroupés par la Fédération des pourvoiries. D'ailleurs, si tu vas sur Pourvoirie Québec, tu peux carrément sélectionner là, qu'est-ce que tu veux faire. La villégiature, de la chasse, de la pêche, dans quel secteur. Puis là, ils vont te proposer plein de pourvoiries. Plein de pourvoiries. Ça te donne un caractère différent. C'est un peu comme on s'en va à Barcelone ou à Nashville ou à peu importe où, puis on va manger où à soir? Aucune idée, on pogne la main, puis on prend qu'est-ce qui nous tente, qu'est-ce qu'on feel sur le moment. Ben, tu peux faire du cherry picking comme ça dans les pourvoiries, puis c'est ce qui rend ça trippant. Les deux autres réseaux sont super trippants aussi. Mais la pourvoirie te donne ce petit oomph de plus-là. Puis souvent, ben, les dates de chasse sont pas les mêmes qu'ailleurs, fait que ça peut aussi aider.
Puis toi, Martin Bourget, qu'est-ce que t'aimes?
Ben, j'aime ça faire un peu de tout. Mais c'est sûr et certain que si tu me donnes le choix demain matin, je pourrais te nommer une ZEC, une pourvoirie puis une CEPAC dans lesquelles, définitivement, si on va au petit gibier ensemble, ouais, on s'en va à CEPAC Vérandry.
Tu pourrais être politicien, Martin.
Je veux rien savoir.
Quel est le poisson le plus combatif que t'as, oh, avec qui t'as eu affaire? Ben, je demande pas son, ouais, prénom, là, mais la sorte, mettons.
Au Québec, le barrayé.
C'est, oh, le plus combatif? Ah, okay.
Oui. Oh, oui, comme le saumon. C'est super trippant à pêcher. Puis les gens qui aiment les chairs blanches floconneuses vont triper sur le côté culinaire de ça. Mais je te dis, il y a moyen de se défaire les bras sur le bord rayé, là, comme au saumon. C'est un peu le saumon, je veux pas dire le saumon des pauvres, c'est pas vrai, là, mais c'est un peu le saumon très accessible. Très, très accessible. Hey, c'est trippant. Puis tu sais, gratis, tu descends à Pointe Carlton dans le bas du fleuve, tu sacs ta roulotte sur le bord de l'eau, tu, ouais, pêches à gué, non, c'est hallucinant. Là.
Mais y a-tu, ça a-tu un rapport avec le poids? La propriétaire, je pense que c'est le restaurant La Gaspésienne, je ne sais pas si c'est encore ouvert, là, mais elle quittait le Québec, là, elle allait à chasse au thon, puis elle se ramassait un thon de genre quasiment une demi-tonne. Ça doit être exceptionnel, pêcher ça, là.
Très exceptionnel. Puis, tu sais, je veux dire, il y a quelques capitaines de bateaux qui ont des permis qui vont t'embarquer sur leur bateau au Québec, mais ça va te coûter une fortune.
Ouais.
C'est pas dans l'accessible. Mais, tu sais, rapport de poids, je vais t'en faire un rapport de poids. J'ai pêché le plus gros doré de ma vie dans la baie de Quincy, sur le lac Ontario, 12 livres. J'avais l'impression de ramener une branche. on va faire un ratio, une truite mouchetée.
Ouais.
La truite serait la grosseur d'un doré, là. Je vais te dire une affaire, tiens là ta canne.
Ah ouais.
Parce que c'est vigoureux. Fait que c'est pas un rapport de poids. Il y a vraiment des espèces. Les salmonidés, truites, saumons, wananiches, ouais, grises dans certains cas, parce que la grise, elle va plus prendre le fond et elle fait un poids en montant.
C'est énorme.
Ah oui, ça peut être gros, là. La majorité des salmonidés sont très actifs. Les persidés, mettons, on prend la perche chaude, le doré, etc., c'est un peu plus large, je te dirais. Brochet. Attaque de tête, quand ça attaque ton leurre, c'est fulgurant, c'est trippant, le poil te dresse les bras, quand est interrompu, au bout de 30 secondes, ça ne tire plus.
Il est parti.
Mais le barrayé, je te dirais que...
Okay.
Barrayé, puis l'autre espèce sportive qui est combative et qui est surtout spectaculaire, puis elle serait un peu plus grosse, ça serait dur, c'est cannes à pêche, c'est la chienne.
OK.
La chienne, ouais, là,
c'est intéressant.
Elle se démène, ça sort de l'eau, ça saute. Un enfant... Tu veux accrocher à tout prix un enfant à la pêche, amène-le à l'achigan avec des leurres de surface. Le poisson va sortir de l'eau avec le leurre dans la bouche. Lui, le jeune va accrocher, c'est sûr.
Le seul achigan que j'ai vu, Martin, c'était à Flintcoat, à mine Flintcoat.
Ouais,
il y a un petit achigan. Il vient nous voir, il y a un achigan dans le lac. Là.
Oh,
il y en a un. Puis quand tu fais de la plongée, il vient te voir puis il nage avec toi. Là.
OK.
Ah oui.
Mais il est du gros fun.
Il est tout petit, par exemple.
Ah oui, lac des piles, c'est la même affaire. Quand tu plonges dans le lac des piles, là, tu te fais suivre par des achigans. Il y a 3-4 gros achigans de 5-6 livres. Puis tu vois, quand tu passes le thermoclime, pour ceux qui ont déjà fait de la plongée, on voit vraiment, là, c'est comme ondulé, comme la chaleur qui sort sur le hood de votre char d'un fois, là, l'espèce, ouais, de vision ondulée. Ouais. Quand tu dépasses ça, eux autres, ils breakent au-dessus. Ils descendent pas. Ils attendent que tu ressortes, puis ils reviennent te suivre.
Ils viennent te voir. Puis est-ce que c'est en raison du reflet dans nos masques qui viennent nous voir?
C'est
curieux.
Honnêtement, je pense que c'est juste curieux.
Okay.
Je pense que t'es vraiment juste curieux. C'est un gros animal aquatique. Un achigan, c'est pas peureux parce que c'est un nageur très, très, très rapide. C'est pas. Ça a de la prédation, le brochet puis mosquée, là. Mais c'est pas très, très prédaté tant que ça. Fait que lui, là, ça fait pas son affaire. À grosseur que t'as, puis autant que ça te prend à faire un mètre de long, lui, ça fait longtemps qu'il est rendu à l'autre bout du lac.
C'est
il est juste curieux, puis il est pas peureux.
Qui est le prédateur du brochet?
Ben, écoute, dans les lacs où est-ce qu'ils vont se côtoyer, s'il y a du mosquée, le brochet va manger une volée. C'est
pour
sûr.
No.
Le brochet. Mais le principal prédateur du brochet, c'est le brochet.
Entre eux, c'est cannibaliste.
Oui,
oh,
oui.
C'est cannibaliste.
Oui. Ça surprend les gens, hein, mais la même chose pour la truite. Quel est le principal prédateur de la truite dans un lac?
Là, ce sera la truite. Ah, oh, ouais.
Oui. Hein. Okay. La truite, ça mange de la truite. Bien souvent, on dit aux gens, Arrêtez de vous barrer à pêcher avec des cuillères puis des verres. Pêchez des poissons nageurs qui ont des couleurs de truite un peu, vous allez faire un maudit saut. Parce que la truite, elle est piscivore. Elle bouffe de la plus petite truite. Surtout les grosses truites que vous cherchez depuis longtemps. Ouais. Là, c'est des grosses... Regardez les dents là-dessus. Là.
OK.
Oh. Ça mange plus de gazon, ça, là.
Non, c'est ça. Hey, finalement, on n'en a pas parlé, mais à Longueuil, c'est réglé. Là. Le sort des serres de Virginie, là, à Longueuil, ils ont décidé de les abattre, là.
Hey, écoute, tu me l'apprends. Je vais aller faire la recherche. Moi, là, je me suis déconnecté totalement de ce dossier-là parce que quand on est rendu au tribunal à me dire quoi faire avec des chevreuils puis qu'on les nourrit à longueur d'année, ce qui est complètement à l'encontre de la loi puis des ouais. mesures de protection des milieux fauniques, je veux dire, c'est... Puis on a des gens qui sont avocats ou qui sont gardiens de sécurité pour Garda, mais qui se prétendent biologistes puis savoir quoi faire avec ça. J'ai honnêtement déconnecté de ce secteur-là. La situation du cheptel de chevreuil à la grandeur de la province est déjà assez questionnable que de commencer à perdre notre temps avec des gens qui respectent pas la loi puis qui tentent de contourner les règlements pour faire vivre des animaux qu'on n'a pas le droit de domestiquer en les domestiquant.
Exact.
Pour organiser vous autres à un moment donné.
Tu sais, moi, Martin, je suis un ami des animaux. Là. J'ai le cœur sur la main pour les animaux. Puis je suis un ami de la SPA. Dès qu'il y a un chat à portée manquant ou il y a trop de chats à SPA, je suis tout le temps là à partager mes affaires. Des fois, je suis trop tannant sur les réseaux sociaux en raison de ça. Mais pour ce qui est de l'histoire à Longueuil où la population de cerfs dans un secteur désigné, un petit parc a explosé dans les dernières années, ça crée des problématiques. Parfois, il y a des interactions avec les voitures et tout ça fait des accidents.
Oui.
Ce genre de problème-là, là, moi, j'ai l'impression, parce que je regarde un peu ce qui se passe ailleurs, je regarde les divers journaux au Canada puis aux États-Unis, puis j'ai juste l'impression que ça se passe au Québec, parce que ça arrive aux États-Unis, ce problème-là, puis les chevreuils, là, ils vont être soit déplacés ou soit abattus, puis on va prendre la viande puis on va donner ça à la population qui en a besoin. Là.
Et voilà, si dans ton... Parce qu'on va s'adresser aux gens qui sont un petit peu contre le contrôle animalier par la chasse, si tu plantes... 240 graines de tomates dans ton jardin, puis tu laisses tout ça pousser, puis tu t'en occupes pas, ça se peut très bien que tu n'aies pas de tomates parce qu'ils vont tous s'entrepourrir entre eux autres. À un moment donné, ça prend une certaine gestion. C'est faux de dire que ça n'arrive pas ailleurs. La raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est que, par exemple, aux États-Unis, allez lire un peu sur la Pennsylvanie. Penn State University est un exemple sur le plan mondial. Où est-ce qu'on en était rendu que dans ce secteur-là, c'était même plus possible d'assurer une voiture tellement c'était cher dû aux collisions avec les chevreuils qui étaient hors contrôle, avec une capacité de soutien du milieu qui était complètement absente. Donc, les chevreuils mouraient de faim ou de maladie à l'agonie dans le cours du monde. Et ils ont remis... Tu sais, Theodore Roosevelt, là, si on va voir le Bone and Crockett Club, là, vous irez voir, là, mais Roosevelt, là, c'est un exemple de valeur en termes de conservation, pas en termes de contrôle animalier. Ils ont remis en place les concepts de contrôle animalier avec le chasseur comme unité de gestion faunique. Et ils ont rétabli le cheptel à un point où est-ce que le cheptel de la Pennsylvanie, présentement, est un exemple en termes de santé de cheptel animalier sur le plan mondial. On les connaît, les moyens de faire. Puis de garder une surpopulation chevreuil dans un milieu clos, où est-ce que la capacité de soutien du milieu pour nourrir ces chevreuils-là n'est pas là, qu'il y a de la contamination croisée, qu'il y a évidemment du inbreeding, de la congénitalité. Donc, on fait des tares génétiques, on fait... mourir différemment des chevreuils pour pas avoir à supporter dans notre esprit humain qui est mort par balle ou d'une autre façon. Même au moment où est-ce qu'il parlait des déplacés, j'avais fait un pause à ce moment-là, puis il parlait des unités de déplacement, où est-ce qu'il voulait les apporter, puis on s'ostinait sur, ils vont-tu se blesser dans le transport ou pas? J'ai passé par-dessus ça, là. Puis dites-vous une chose, vous avez un problème, vous avez trop de chevreuils, vous allez les déplacer dans un bois où est-ce que la chasse est ouverte au mois de novembre. Fait que, loin des yeux, loin, c'est pas grave, ils vont, mais c'est pas chez vous qu'ils vont se faire tirer, c'est aberrant, ouais. c'est pas ça des moyens. Et si tu veux assurer la pérennité d'un cheptel puis mettre des moyens perdurables en place, ben, on n'en récolte plus d'animaux dans le bois, on a le complexe de Dieu, on a reviré la gestion de la planète à l'envers, puis on se ramasse avec des problèmes de surpopulation, puis on n'a pas le choix de gérer parce qu'on a aussi encastrer les prédateurs en construisant des villes, des bourgs, des autoroutes alentour, fait qu'il n'y a pas de régulation naturelle. Puis quand les gens me disent que la nature va faire par elle-même, bien la nature, là, elle a mis un prédateur suprême à la base dans cet écosystème-là. Il y a une job de régulation à faire au niveau des cheptels animaliers. Puis ça, c'est l'être humain qui a décidé de se retirer de l'équation. Mais... Puis là, fait comme, on est rendu des coyotes dans notre cour.
En deux minutes, Martin, à quel point la population manque d'informations à ces sujets-là?
C'est faramineux. C'est faramineux. Dans le sens où est-ce qu'on n'a aucune espèce d'idée de l'état du cheptel de serre de Virginie. On brandit les masques quand les gens tirent des femelles, quand certains secteurs sont problématiques parce qu'ils sont très débalancés dans les ratios de sexe. Il y a beaucoup trop de femelles. Les mâles n'accouplent plus. Pendant ce temps-là, les Premières Nations nous regardent aller et nous disent « Envoyez-nous donc ça, vos recettes pour faire cuire un panache, parce que l'homme blanc, surtout, est très, très à la course envers des panaches, des trophées de chasse, et non pas l'activité de récolte de viande. » Fait qu'il y a un manque d'information. Il provient surtout du fait que les grosses organisations ne publient pas suffisamment d'informations. Il faut aller vers leur site web pour aller le chercher. Allez sur le Facebook de Unis pour la faune. Là. C'est un organisme sans but lucratif. Là. Vous allez en apprendre énormément sur l'état du cheptel de cerf de Virginie. C'est des gestionnaires fauniques. Ils vont vous donner leur juste, sont sur la coche en tabarouette. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une autre façon de voir ça. Là. Planter 350 tomates dans deux pieds carrés, si tu t'en occupes pas, ils vont toutes moisir. C'est la même affaire pour les animaux à quatre pattes.
Martin Bourget, on peut vous voir et vous écouter à quel endroit?
Sur les ondes de Télémag, 21h tous les jeudis, sur le web partout, Carbon TV, Sportsman Channel, Zone 300, YouTube, Facebook, 3-4 fois par année, le magazine en kiosque. Si vous ne trouvez pas, c'est parce que vous avez les yeux fermés, écrivez-nous sur Facebook, on va vous orienter.
Un homme occupé. Puis là, vous avez Filles de bois aussi, vous organisez des gangs de filles, là?
Oui, oui, bien le groupe Filles de bois, ouais. Groupe exclusif aux femmes, pêcheuses, chasseuses, trappeuses, villégiateurs.
Okay, mais Martin, moi, si je me sens femme, là, je peux-tu aller avec ces milliers de femmes qui sont dans ton groupe?
Dis non.
Ça dépend comment tu définis ton genre.
Dis non, c'est Yannick. Dis non.
Je me sens un petit peu femme, là.
Dis non.
On sait pas pourquoi.
Vous êtes qui pour juger que j'en suis pas une en 2023?
Ta co-animatrice.
Il va te demander un papier du psychologue si tu veux rentrer là.
Ouais, ben d'accord. Martin Bourget, c'est toujours un plaisir. On se rejoint la semaine prochaine.
Yes, à la semaine prochaine.
Merci, bye bye. Martin. L'excellent Martin Bourget, chroniqueur. Sur les ondes de Boulevard Chasse-Pêche, il est du groupe Aventure Chasse-Pêche. Donc, je vous invite à écouter toutes ses émissions. Lui et Kate sont juste formidables. On fait une pause et on revient.